transformation du corps du Christ par l'Esprit Saint en Marie, de voir comment un théologien du Moyen Âge, disciple d'Albert le Grand, faut pas l'oublier, disciple d'Albert le Grand, Albert le Grand était de son temps, sûrement le plus grand savant de son temps, c'est-à-dire de la science qui à cette époque-là était un regard, j'allais dire, très descriptif. Sur les réalités, il faut lire Albert le Grand commentant Job. Il y a des choses admirables. Vous voyez qu'il regardait les nids des oiseaux pour voir les tout petits et voir regarder leur manière d'être. Des têtards. Albert le Grand penché sur un têtard, ça devait être quelque chose d'assez extraordinaire. C'était. Et. Par le fait même des remarques d'Albert le Grand sur le mystère de Marie comme mère de Jésus. Une de ces remarques que j'aime beaucoup, parce que on voit bien tout ce qu'Albert le Grand saisit par là. Saint Thomas laisse tomber tout ça dans sa somme théologique. Mais il a sûrement impossible autrement, étant donné l'amour d'Albert le Grand pour la Vierge Marie, il avait un amour extraordinaire pour Marie, et un amour d'enfant, mais tout à fait différent de celui de saint Thomas. Saint Thomas est d'une sobriété sur son amour pour la Vierge Marie. On le découvre de temps en temps, il faut bien se placer pour le découvrir. Tandis qu'Albert le Grand, c'est en parler, et quand il dit, c'est tout à fait dans la lumière de ce qu'on voyait aujourd'hui, quand il dit que l'enfant Jésus est celui, l'enfant qui a le plus ressemblé à sa mère, puisqu'il n'y avait qu'un seul atavisme, il y a un atavisme d'une pureté absolue, et la maternité de Marie étant fête des maternités. La maternité qui atteint son sommet. Toutes les générations me proclameront bienheureuse. Je crois qu'on peut dire toutes les maternités me proclameront bienheureuse. Elle est la mère des mères. Elle est la mère par excellence. Si on regarde la grandeur de la maternité à son fruit, on peut dire que cette maternité atteint le sommet. Puisque le fruit de cette maternité, c'est pas seulement un enfant merveilleux, d'une extraordinaire finesse, d'une extraordinaire délicatesse, d'une intelligence remarquable, mais il est fils bien-aimé du Père, il est Dieu. Que la maternité se termine au mystère du Fils bien-aimé du Père, c'est quelque chose d'infini. Et c'est vrai, c'est quelque chose d'infini. Il y a quelque chose d'infini dans la maternité de Marie, qui touche le sommet de la création, puisque Jésus est au-delà de la création, puisqu'il est Dieu. Tandis que Marie reste la créature parfaite, et cette créature parfaite, c'est la mère par excellence. Il y a là quelque chose de très fort comme sens de ce que c'est que l'humanité. Il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge toutes les cathédrales étaient dédiées à Marie. Si on faisait ça aujourd'hui, on créerait la mariologie. Au Moyen-Âge, ça allait de soi, il n'y avait pas de problème. C'est normal, c'était la mère. Nous avons beaucoup de peine à comprendre ça, parce que entre deux, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont fait qu'on n'a plus osé affirmer avec autant de force. mer. Et jusqu'à ces dernières affirmations qui font partie de notre monde et de notre dégradation. De temps en temps, je vous ai déjà cité, parce que comme quand j'étais à Fribourg, j'étais pas loin de Neuchâtel, et auprès de Neuchâtel, il y avait ce psychanalyste, disciple de Freud, qui se disait plus freudien que Freud, comme on se dit royaliste, plus royaliste que le roi. Il disait ça, c'est lui qui disait ça. Donc il était plus freudien que Freud. Et Freud montrait comment le père était un trouble fait. On sait bien, dans la perspective freudienne, l'autorité paternelle, elle est toujours à éviter le plus possible. Puisqu'elle retire la mère à l'enfant. La mère est tranquille quand elle est auprès de son petit enfant. Et quand le père arrive, il lui dit « Mais dépêche-toi, il y a longtemps que je t'attends. » On voit très très bien comment ça se fait. Une petite scène de ménage. Alors le père trouble et il est celui qui arrache la mère à l'enfant. Et c'est pour ça que l'enfant a quelque chose, toujours un peu contre le père, contre l'autorité. C'est pas entièrement vrai, hein. Ça c'est Freud, c'est la vision de Freud. Pas du tout contemplative. Vous voyez, c'est juste l'inverse. C'est l'inverse de la lunette. C'est pour ça que c'est quelquefois très important. Regardez l'extrême. Quand je regarde Albert le Grand et puis Freud et surtout ce disciple de Freud qui dit qu'il y a encore quelque chose de plus terrible que la paternité, c'est la maternité. Alors ça c'est odieux puisque la mère fait que l'enfant est pris par elle et que la mère est toujours captatrice et donc elle maintient. Et elle ne veut pas que les enfants grandissent. Parce que quand ils sont petits, ils sont gentils. Tandis que quand ils grandissent, ils prennent un tout petit peu d'indépendance. Alors ils ne sont plus aussi gentils avec leur mère. Et donc elle est captatrice et elle veut garder tout le temps. Et elle empêche l'enfant d'avoir son autonomie. Mais c'est très vrai, il y a des caricatures comme ça, ça existe, on sait très bien. Mais la corruption de ce qu'il y a de meilleur, c'est le pire. Donc on devrait conclure de là que s'il y a des mères captatrices et donc qui abîment la maternité, c'est peut-être le signe que la maternité c'est la chose la plus excellente qui soit dans le monde créé. Et c'est vrai, parmi les choses créées, c'est la chose la plus excellente et la plus grande. Je crois que quelqu'un qui ne respecte plus la maternité, mais c'est odieux. Un homme qui ne respecte pas une mère qui attend son enfant, mais c'est effrayant. Ça prouve qu'il n'y a plus rien d'humain en lui. C'est quelque chose d'abominable. Et parce que la fragilité de la mère qui attend son enfant, il y a une fragilité tout à fait particulière, toute spéciale. Et parmi toutes les mères, Marie, le sommet de la maternité. Parce que justement, son fils, c'est en même temps le fils du père. Alors Albert le Grand est très frappé, ça fait partie de la sensibilité d'Albert Legrand, qui est sensibilité très divine et très humaine, beaucoup plus descriptive que saint Thomas. Alors ça se touche, ça se voit. Et alors Albert Legrand souligne que justement l'enfant Jésus, le tout petit enfant Jésus, est celui parmi tous les enfants qui a le plus ressemblé à sa mère. Et donc il y a une espèce de similitude affective, sensible, unique entre l'enfant Jésus et Marie. Puisqu'il n'y a pas deux atavismes, il n'y en a qu'un. Vous voyez, saint Thomas ne dit rien de tout ça. Quand il regarde la formation du corps, Albert le Grand souligne ça tout de suite. C'est très beau, vous savez très bien les deux aspects d'une théologie qui ne veut regarder que l'aspect scientifique de l'intelligibilité qu'on doit avoir vis-à-vis de la conception du Christ, de la nativité du Christ. Et Albert le Grand, un artiste, en mystique, voit tout. aussi dans les mystères de joie. Il y a des sympathies dans les mystères de joie. Il y a des êtres qui vibrent à l'unisson dans la joie. Comme il y a des personnes qui vibrent à l'unisson dans la souffrance. Et entre eux, l'enfant Jésus et Marie, des complicités affectives, sensibles, merveilleuses, toutes divines. Et le Père le Grand prend tous les sens, les uns après les autres, le regard, l'ouïe, disant que l'ouïe de la Vierge Marie était en harmonie parfaite avec la voix de l'enfant Jésus. Qu'elle pouvait par le fait même découvrir dans la voix du Christ toutes les harmonies de la voix du Christ, toute l'affectivité de la voix du Christ, parce qu'il y avait cette harmonie parfaite entre les deux et cet amour qui les unissait et qui faisait qu'ils pouvaient se comprendre de cette manière si forte. On peut regarder le sourire de l'enfant Jésus, le regard de l'enfant Jésus sur Marie. C'est tout à fait dans la ligne d'Albert le Grand, et c'est dans la ligne des cathédrales, ça. Vous voyez, la sensibilité de la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe, c'est quelque chose de très très particulier comme lien qu'Albert le Grand saisit entre l'enfant Jésus et sa mère. Je crois que c'est très grand, cela, parce que ça fait partie, si vous voulez, de ce que Dieu, dans sa sagesse, a voulu. Il a voulu que le sommet de la création, c'est le sommet de la création. Je ne crois pas qu'après on évolue vers le point oméga. Le point oméga, c'est la maternité divine de Marie. C'est le sommet. On ne peut rien trouver de plus grand que la maternité divine de Marie. C'est là où on touche la créature. Dans notre univers, la plus parfaite, dans sa maternité et dans sa maternité divine. C'est pour ça qu'on ne peut pas penser quelque chose de plus grand que d'être la mère de cet enfant qui est notre Dieu, la mère de son Dieu. Et c'est vrai, si on essaie, dans la foi, de comprendre un peu ce que ça représente, pas se le représenter, mais comprendre un peu la signification de cela. C'est fou. Quand vous voyez l'union ordinaire d'un tout petit enfant et de sa mère, c'est toujours très beau à voir, c'est toujours très grand à voir. Et quand cette mère, justement, l'est d'une manière unique, et de cette manière si forte, puisque cette maternité miraculeuse est plus parfaite que toutes les autres maternités, de voir que Marie pouvait connaître et a connu, parce que si elle pouvait, elle l'a connu, à l'égard de son Dieu, il y avait Dieu des armées. Marie est au terme de toute la grande attente du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a un sens de la transcendance de Dieu comme pas un peuple ne l'a eu. Ça, c'est un fait. Le peuple d'Israël a été choisi pour cela, pour donner le sens de la transcendance de Dieu. Vous ne pouvez pas prononcer le nom de Dieu. Et le mystère de l'adoration, qui est là, comme le premier commandement, un seul Dieu tu adoreras, au milieu de tout polythéisme, cette affirmation de la transcendance de Dieu, parce que le Dieu unique, on ne peut montrer le Dieu unique que par la transcendance. C'est pour ça, on tombe dans une république divine, ça va plus du tout. Alors ça fait partie de l'Olympe, et alors on voit la relativité à ce moment-là, sortir de cela pour affirmer le caractère unique de Dieu dans sa transcendance. Yahvé, le Dieu des armées, la toute-puissance. la justice, la miséricorde, les grandes affirmations sur le mystère de Dieu qu'on retrouve à travers toute l'attente de cette première alliance vis-à-vis de celui qui doit être le sauveur. Marie a été formée par cela, évidemment. Elle avait une plénitude de foi, d'espérance et d'amour qui faisait que Marie lisait les psaumes dans une profondeur que nous ignorons. Marie n'avait pas besoin d'interprète, puisqu'elle est la reine des prophètes, donc elle est la reine des interprètes, par rapport à la parole de Dieu. Ça, c'est sûr. Elle n'avait pas besoin d'herméneutique, elle n'avait pas besoin d'interprétation, elle n'avait pas besoin d'exégèse. La parole de Dieu était pour elle quelque chose de tellement naturel qu'elle la recevait pleinement, et donc elle ne l'explicitait pas, mais elle en vivait la bonne terre qui reçoit la parole de Dieu, puisque cette parabole qui est dans Saint Luc, je suis persuadé que c'est Jean qui l'a communiquée à Luc. Elle est la bonne terre qui reçoit la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est cette semence qui tombe dans la bonne terre et qui peut porter tous ses fruits. Marie n'a pas écrit. Elle aurait dit beaucoup de choses sur la parole de Dieu. Vous voyez, un commentaire du Cantique des Cantiques par la Vierge Marie. Hein. Ça aurait été quelque chose. Je crois qu'elle aurait dit à chaque instant, c'est ineffable, je ne peux rien dire. N'est-ce pas ? Ça aurait été à chaque fois ça. C'est quelque chose de tellement profond, c'est quelque chose de tellement personnel qu'on ne peut rien dire. Et je crois que c'est ça le silence de Marie. C'est un silence de plénitude. Un silence de plénitude qui fait qu'on sait très bien que tout ce qu'on dit est à côté de ce que, de la réalité qu'on touche, de la réalité qu'on expérimente. L'amour de son cœur va tellement loin que la parole de Dieu éclate et elle est tout de suite en liaison avec le mystère. Vous voyez, si on était immédiatement uni au mystère, on s'attarderait beaucoup moins à la parole. Alors, on ne chercherait pas à ergoter sur la parole. Pour Sainte Catherine de Sienne, la parole, c'est l'écorce. Et si vous pénétrez tout de suite dans la moelle, ben vous n'arrêtez pas à l'écorce. On s'arrête beaucoup à l'écorce, parce que nous sommes poussifs dans la foi. Nous avons de la peine. Nous n'avons pas une foi, c'est vrai, nous n'avons pas une foi qui aller jusqu'au bout, à déraciner les arbres. Nous n'avons pas cette foi-là. Notre foi est une foi, il faut bien le dire, elle est très abîmée, notre foi, par tout le contexte historique, critique, positiviste. Notre foi est très abîmée, nous mettons beaucoup de temps avant de redécouvrir une foi sainte. Mais naïve dans le sens divin. Soyez simples comme des colombes. Et donc cette simplicité très profonde qui fait que on ne s'arrête pas à la parole. De temps en temps, je me dis, je ne sais pas comment, du haut du ciel, le Seigneur regarde toutes ces élucubrations indéfinies sur la parole. On ne voit plus que l'écorce. Alors on regarde indéfiniment ça, sur toutes ses formes, hein, puis on la taille de droite et de gauche, pour voir ce que c'est. Et puis le mystère. Parce que le mystère, il se contemple, il échappe à l'herméneutique, à l'interprétation. Vous ne pouvez pas interpréter un mystère. Le vieux philosophe disait qu'on ne peut pas interpréter un principe, parce qu'il est indivisible. Alors on le saisit ou on ne saisit pas. Tandis que la parole, oui, alors là, c'est tout le monde a saisi. Et puis on peut l'interpréter de multiples manières. Mais le mystère va bien plus loin que le principe. Le mystère connaît quelque chose de bien plus absolu. C'est pour ça que c'est au-delà de toute herméneutique, c'est au-delà de toute interprétation. C'est quelque chose qu'on reçoit et qu'on vit. Et la foi de Marie était tellement profonde Jean-Marie vivait de cette intimité très très grande avec son Dieu. Elle était une petite contemplative qui vivait du Cantique des Cantiques. Et le Cantique des Cantiques était pour elle la réalisation de tout ce que les prophètes avaient dit, l'alliance de Yahvé avec son peuple. Et c'est l'alliance de l'époux avec l'épouse. Mais cet époux, il a une grandeur, une transcendance. Il y a une puissance. Ça se sent bien dans le Cantique des Cantiques. On sent bien cela quand l'épouse regarde l'époux. On sent qu'il y a le regard de quelqu'un, mystère qui la dépasse complètement. Et voilà que, avec l'Annonciation, Dieu lui est donné pour être plus intime d'elle-même. Dieu s'enracine en elle. Et c'est vrai, c'est comme un enracinement de Dieu. La conception du corps du Christ, de la nature humaine de Jésus en Marie. Oui, Dieu qui prend ce langage de cette petitesse. Et vous voyez, si on essaie de comprendre un tout petit peu ce qu'on essayait de voir à travers l'analyse de saint Thomas, pourquoi le miracle? Pourquoi c'est l'Esprit Saint qui a réalisé en elle ce mystère de la conception? Ce mystère de la formation du corps du Christ, et que Marie était la matière dont l'Esprit Saint s'est servi. Une matière vivante, une matière maternelle, en qui la semence a pris toute sa fécondité, toute sa puissance. La bonne terre, la description de la bonne terre, c'est très important pour comprendre la manière dont l'Esprit Saint a fécondé Marie divinement, miraculeusement. C'est 1%. C'est ça la bonne terre, c'est la définition de la bonne terre. Ça porte pleinement. Alors ça montre l'activité prodigieuse ce que l'Esprit Saint réclame de Marie. Là, on comprend ce que représente cette activité maternelle de l'ordre de la disposition. 1%. Puisque ce qui est vrai de la parole est encore beaucoup plus vrai pour le mystère de l'incarnation. Puisque toute la parole est ordonnée à ça. Et toutes les paroles de l'Ancien Testament, toutes les paroles de Dieu reçues en Marie, dans cette bonne terre, reçue au plus intime d'elle-même, porte ce fruit étonnant. 100%. C'est merveilleux. Et quand il s'agit alors du mystère de l'Annonciation, quand il s'agit de la formation du corps du Christ en Marie, ce que l'Esprit Saint a réclamé de Marie, cette bonne terre qui était là, transformée par l'Esprit Saint pour être la terre divine, assumée par le Verbe, pour être le corps du Christ, qui est le corps d'un Dieu. Pour Marie, dans sa foi, puisque c'est ça que nous devons essayer de regarder, puisque Marie est la première dans la foi chrétienne explicite. Abraham est le premier comme patriarche pour le peuple d'Israël. Et Marie est la première dans la foi, elle est le modèle de notre foi. Et Vatican II l'a rappelé. Marie est le modèle de notre foi. Donc c'est auprès d'elle qu'on doit comprendre ce que c'est que la foi chrétienne. Et vous voyez, comme la foi chrétienne est liée à la bonne terre, comme la foi chrétienne est liée à tout ce mystère de la coopération de Marie avec l'Esprit Saint. Comme la foi chrétienne est liée à cette attitude de réceptivité. La matière, c'est la réceptivité. La causalité matérielle, c'est la réceptivité. Cette attitude de réceptivité, mais d'une réceptivité active, aimante, qui met tout, absolument tout, au service de l'œuvre à accomplir. Et cette réceptivité aimante permet la formation du corps du Christ dans la foi. Pour Marie, cette proximité de Dieu, du Verbe de Dieu, du Fils bien-aimé du Père, qui fait que le Fils bien-aimé du Père lui est donné directement. Elle a d'abord conçu dans sa foi. Et donc, quand on dit qu'elle a d'abord conçu dans sa foi, ça veut dire que elle a reçu le don que le Père lui fait du Verbe et de son Fils bien-aimé. Elle a reçu d'abord cela. Et ensuite, elle a conçu selon sa chair. Et donc la conception de la chair se fait à travers le mystère même de la contemplation. Dans la contemplation. Et nous sommes là en présence du premier moment de la foi chrétienne. Donc à la fois une réceptivité la plus grande qui soit. On touche vraiment ce qu'il y a de plus profond dans la causalité matérielle. Une réceptivité radicale. Et en même temps une activité merveilleuse de don. De don de tout elle-même. Sa plus grande joie, c'est d'être entièrement donné. Et que l'Esprit Saint puisse vraiment puiser en elle toutes ses forces vives. Et symboliquement, quand saint Thomas parle du sang très pur de Marie pour former le corps du Christ, je trouve ça très beau quand on sait le langage de l'Écriture, c'est dans le sang que réside l'âme. Le sang représentant ce qui a de l'aspect de la jonction de l'esprit et de la matière. Le sang exprimant la souplesse, c'est vrai. C'est le sang qui explique ce qu'est le vivant. L'analyse du sang montre bien si on est en pleine santé ou si on est dans une attitude de fragilité. Et c'est le sang qui détecte le mieux cela. Et dans toute la tradition d'Israël, on voit bien comment Marie offre ce qu'il y a de plus généreux en elle. Et la, j'allais dire la joie de pouvoir donner sa vie. Une mère donne sa vie pour son fils. Une vraie mère est toujours prête à mourir pour son enfant. Et elle fait toujours passer l'enfant devant. Ça, c'est le propre de la maternité. Et elle ne se pose pas de problème. C'est les théologiens qui posent le problème. Mais la mère ne se pose pas le problème. Pour elle, il n'y a qu'une seule chose, c'est que l'enfant vive. Alors quand vous en pensez à la maternité divine de Marie, qui fait que cette maternité est plus pure que toutes les autres maternités, plus grande que toutes les autres maternités. Donc le don de Marie, on n'y pensons pas assez, parce que nous ne voyons pas assez ce que représente ce don d'elle-même pour la formation du corps du Christ. Mais Marie aurait été dans la joie de mourir pour que son fils vive. Et je crois que c'est resté toute sa vie, ça. C'est une attitude peut-être qu'on ne voit pas assez de la maternité divine de Marie, Et alors on comprend très bien à la croix pourquoi elle est debout auprès du Christ crucifié.
Marie.
la limpidité du mystère de Dieu, la limpidité de la foi. C'est quelque chose de merveilleux. Marie sait qu'elle n'a aucun droit sur son fils, puisqu'elle l'adore. Première chose que Marie a fait durant la nuit de Noël, c'était d'adorer Jésus. Marie a adoré son tout petit enfant. C'est fou ça, l'adoration d'une mère pour son petit enfant, parce que c'est son Dieu. Vous voyez, c'est une adoration contemplative en esprit, en vérité, un regard qui fait qu'elle ne s'arrête pas à l'aspect extérieur, si grand qu'il soit, mais elle est en présence du mystère. Et c'est ce mystère qui la prend, qui la saisit. Maternité plus parfaite que tous les autres, et une maternité toute pauvre, sans aucun droit. Une générosité sans aucun accaparement. Quelque chose d'héroïque dans la plus grande simplicité. C'est cela le mystère de la maternité divine de Marie. C'est quelque chose que nous devons contempler. Parce que nous devons aimer la maternité divine de Marie. C'est un des aspects par lesquels Marie est si proche de nous, parce que cette maternité à l'égard de Jésus, elle va s'épanouir divinement dans la maternité de Marie auprès de nous, à la croix. La maternité divine de Marie auprès de l'enfant Jésus, auprès de Jésus, va prendre toutes ses dimensions à la croix. Et à la croix, elle meurt dans son cœur de mère pour Jésus. Pour qu'il y ait cette maternité à notre égard, pour nous. Mais la maternité de Marie à notre égard prolonge sa maternité à l'égard de Jésus. Et c'est pour ça que si on veut regarder le fondement de la maternité divine de Marie à notre égard, il faut tout le temps regarder cette maternité de Marie à l'égard de l'enfant Jésus. Cette mère est tellement pauvre et tellement dépouillée d'elle-même. Et ça se voit dans son adoration à l'égard de l'enfant Jésus, qu'elle laisse passer devant son tout petit, qui est son Dieu. Et c'est comme ça qu'elle peut l'adorer. Parce que s'il y avait tant soit peu d'accaparement à l'égard de son enfant, elle n'aurait pas pu l'adorer. Et l'adoration la maintient dans cette pauvreté. La maintient relative. Normalement, c'est l'enfant qui est relatif à sa mère. Et dans son adoration, c'est Marie qui devient relative à Jésus. Et parce qu'elle devient relative à Jésus, elle peut vivre dans cet état de pauvreté absolue à l'égard de l'enfant Jésus. Elle peut être celle qui est toute donnée pour lui. Cette maternité miraculeuse, cette maternité divine, contemplative, cette maternité si pauvre qui permet à cette mère d'adorer son fils, son petit enfant. C'est Dieu qui l'a voulu de cette manière. Je le disais tout à l'heure, Dieu aurait pu, dans sa sagesse, faire que le mystère de l'incarnation se réalise selon la loi ordinaire, selon l'alliance première. L'alliance de Dieu avec les hommes, c'est au niveau de la fécondité. C'est au niveau de la procréation. Dieu aurait pu très bien, dans sa sagesse, faire que le mystère de l'incarnation se réalise dans l'union de Joseph et de Marie. bien et certains trouvent que ça aurait été beaucoup mieux. Parce que ça aurait été plus proche de nous. Il serait mieux manifesté que Dieu bénissait le mariage. Mais Dieu n'a pas fait cela. Alors, il y a des raisons profondes de cela. Une des raisons qui est immédiate, celle-là, c'est pour que cette maternité soit plus parfaite que toutes les autres. Là, je crois que c'est pour la plénitude de perfection de cette maternité. Marie coopère avec l'Esprit Saint pour réaliser avec l'Esprit Saint cette œuvre unique. Cette œuvre unique qui s'est réalisée dans notre univers. La formation du corps d'un Dieu. La chose la plus grande qui existe dans l'univers. C'est vrai si, d'une certaine manière, tout l'univers est pour la survie de l'espèce humaine. Et donc est pour la maternité. Pour que de fait l'homme continue d'exister. Et si parmi toutes les maternités, cette maternité est la première par son terme, puisqu'elle atteint comme enfant le Fils bien-aimé du Père, il faut que sa modalité, sa manière d'être soit absolument parfaite. Et pour cela, on comprend très bien comment Dieu intervient pour mettre comme un accent de perfection. Parce que je vous disais, l'exemple que prend saint Augustin, c'est très significatif. Quand saint Augustin dit, chaque fois que Dieu intervient dans la nature, miraculeusement, il fait quelque chose de plus parfait. On prend l'exemple de Cana, parce que c'est particulièrement parlant. Le second vin était meilleur que le premier. Et le second vin était d'un cru inconnu des hommes. Et il restera toujours inconnu des hommes. Et on touche là le meilleur vin qui a existé au monde. On peut tendre vers la qualité la plus grande qui soit. On touche là quelque chose d'unique parce que c'est Dieu qui l'a fait. C'est déjà dans l'Ancien Testament, on disait ça à propos de la manne. Le meilleur pain qui a existé au monde, c'est la manne. C'est le meilleur pain. C'est ce passage de la sagesse qui dit que la manne avait le goût des désirs de chacun. Alors évidemment, ça ne doit pas exister pendant le carême. Les désirs de chacun. Vous désirez faire un bon repas, la manne avait ce goût-là. Alors, tu sais, c'est exagéré, c'est pas du tout exagéré, c'est tout simplement parce que Dieu lui-même intervient directement dans notre univers. Et quand Dieu intervient directement, il fait quelque chose qui nous dépasse complètement. Dieu a plus d'imagination que nous. Heureusement. Il n'a pas d'imagination, mais sa sagesse dépasse tout ce que nos imaginations peuvent penser. Alors, quand il s'agit de la maternité, qui doit être une maternité qui manifeste le mystère de la paternité éternelle de Dieu. Parce que c'est bien cela. Marie ne s'est pas arrêtée à sa maternité. Elle contemplait la paternité du Père pendant tout l'Avent. Marie ne s'est pas arrêtée à sa maternité. Si merveilleuse qu'elle soit, sa maternité était pour elle le signe sensible du mystère de la paternité. À chaque instant de l'Avent, Marie vivait de cette paternité. Et à Noël, d'une façon encore beaucoup plus forte, sa maternité est tout de suite pour elle le signe. C'est pour ça que cette maternité est contemplative, vous comprenez. Si elle s'était arrêtée à sa propre maternité, comme une mère peut s'arrêter à la conscience qu'elle a d'être mère. C'est beau, c'est grand, c'est héroïque quelquefois. Ça reste humain, c'est pas contemplatif. Quand on dit que la maternité divine de Marie est contemplative, ça veut dire que Marie ne s'arrêtait pas à sa maternité et qu'elle voyait tout de suite que cette maternité était la manifestation, le signe de cette paternité éternelle du Père à l'égard de son Fils bien-aimé. Elle était associée à cette paternité. Et cette maternité reflétait dans notre monde, créé quelque chose de la paternité. Alors si c'est cela, dans la sagesse de Dieu, vous comprenez bien qu'il fallait que la maternité divine de Marie soit une maternité la plus parfaite qui soit. Et donc, l'Immaculée Conception et l'Esprit Saint, c'est quand même quelque chose. Et vous voyez là comment l'Immaculée Conception et l'Esprit Saint coopèrent pour réaliser cette chose unique de la maternité divine de Marie et du fruit de cette maternité. Et cette maternité divine de Marie sanctifie Marie parce qu'elle est contemplative. Et parce qu'elle est contemplative, elle est infiniment pauvre puisque c'est la paternité du Père que Marie contemplait. Je crois que c'est la grande raison pourquoi, de fait, cette maternité est miraculeuse et fait appel à l'Esprit Saint. C'est vrai, c'est merveilleux de voir cette coopération d'une petite créature, toute pure, virginale. Miraculeusement, par l'Esprit Saint, formant ce premier moment de la conception du Verbe devenu chair. Et cette humanité sainte du Christ, dès le premier moment de sa conception, est comme l'écho, le signe, le fruit qui reflète le mystère éternel du secret du Père, le Verbe de Dieu. Vous voyez qu'on touche là, vraiment, dans notre monde, le sommet, ce qu'il y a de plus grand. C'est pour ça que ça nous attire, même si on a beaucoup de peine, c'est par comprendre, c'est vivre de cette présence. Et je crois que c'est ce que nous devons demander à la Vierge Marie. Parce que cette conception, elle est liée à la nativité. Les deux se tiennent. On ne peut pas séparer conception et nativité. Et c'est à la nativité que le visage du Verbe de Dieu nous est donné à travers le visage d'un tout petit enfant. Et le visage du tout petit enfant, Jésus, montre le visage de Dieu pour nous. Le regard de Dieu pour nous, le Verbe de Dieu, invisible, se rend visible. Dieu transcendant devient tout proche, proche comme un tout petit enfant est proche à sa mère, proche dans le regard, proche dans le toucher, la manière dont le petit enfant Jésus peut serrer sa mère, serrer les mains de sa mère. C'est Dieu qui tient et qui veut nous tenir pour nous faire comprendre combien il est proche de nous et combien il veut que nous soyons avec lui. L'Emmanuel, Dieu avec nous et nous avec Dieu. Et c'est les mains du petit enfant Jésus qui saisit sa mère et qui la prend et qui la veut à lui. C'est cette proximité et cette simplicité de Dieu pour Marie et pour nous, que nous devons contempler, que nous devons essayer de vivre, puisque c'est cela qui nous est donné. C'est le grand secret de notre vie chrétienne. C'est le grand secret de notre vie chrétienne. Toutes les nostalgies que nous portons en nous, les nostalgies d'amour, les nostalgies de beauté, les nostalgies de réussite, toutes ces nostalgies que nous portons en nous, se trouve réalisé dans le mystère de Noël. Et c'est ça qui est très étonnant. Se trouve réalisé dans le mystère de Noël. Parce que justement, il y a là, comprenez bien, je mets ça entre guillemets, une réussite unique, formidable. On ne peut pas penser quelque chose de plus parfait, de plus beau, de plus grand, de plus noble, de plus aimant. Mais caché, voilé. C'est pour ça que c'est un mystère de joie. Et c'est pour ça que c'est un mystère de présence. Vous voyez, l'enfant Jésus à la crèche et le Christ crucifié. Les deux extrêmes de notre humanité. L'extrême de la douleur, l'extrême de la joie. La joie, c'est toujours la réussite et la présence. Et les deux. Parce qu'une présence qui n'implique pas quelque chose de parfaitement réussi ne donne pas la joie. Tandis que quand il y a une réussite, une victoire parfaite, plénière, et qu'il y a une présence, alors il y a une très grande joie. La joie de Marie à Noël dépasse tout ce qu'on peut penser. Et elle veut nous donner cette joie, puisqu'elle est cause de notre joie. Et elle est cause de notre joie dans ce mystère de Noël. Et la croix ne sera pas la brisure de cette joie. Mais la croix montrera comment l'amour de Dieu est victorieux de toutes les souffrances. Mais il faut toujours ces deux mystères. C'est le flux et le reflux de toute notre vie chrétienne. On passe de l'un à l'autre. Parce que c'est vrai, les deux se tiennent, l'alpha et l'oméga, le point de départ. Pèlerinage du Christ, de Jésus. d'une joie voilée, cachée, d'une joie qui assume toutes tes brisures. Il faut que nous demandions très fort à la Vierge Marie de nous introduire dans le mystère. C'est son désir que Niliès se Jésus.